Beauté, une émission de Christiane Hervaux sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, j'espère que vous allez bien après ces fêtes et cette nouvelle année qui commence. Je vous redis encore bonne année 2024, j'espère qu'elle sera toute bonne selon vos voeux, selon vos désirs, selon vos besoins aussi pour toute cette année. La semaine dernière, nous avons évoqué un peu quelques liens pour cette année 2024, justement. Nous avons parlé notamment de l'espérance. Et quoi de mieux que de commencer cette année avec ce mot que nous allons essayer de vivre au quotidien, comment vivre cette espérance? Eh bien, je vous convie à écouter la leçon qu'avait donnée Olivier Abel lors de la nuit de l'éthique qui s'était passée, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, c'était l'année dernière, mais bon, 17-18 juin 2023, à la Maison du protestantisme, donc nuit de l'éthique qui avait rassemblé plusieurs personnes qui était venu nous donner des leçons sur le courage, la confiance, l'hospitalité, le juste, les humanités, le monde, et pour finir, l'espérance. Et Olivier Abel, lors de sa leçon donc 19, avait intitulé son propos « La folle sagesse de l'espérance ». Alors j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à notre année 2024, d'être un peu fou et un peu fou d'espérance. Alors je vous propose de l'écouter et puis nous nous retrouverons après. Peut-être avant ça, nous allons écouter un peu de musique d'abord. Voilà, je vous propose d'écouter de nouveau Yann Tiersen comme la semaine dernière, mais c'est un autre morceau. Voilà, je suis un peu là-dedans en ce moment, c'était les fêtes, j'ai réécouté ces morceaux de Yann Tiersen avec mon fils et je vous en fais profiter. Donc, un peu de musique et ensuite cette leçon de Olivier Abel, « La folle sagesse de l'espérance ». Nous nous retrouverons après pour un complément d'information et puis pour nous dire au revoir, bien sûr. Donc, bonne écoute pour la musique d'abord et ensuite pour la leçon 19 d'Olivier Abel. Thank you.
D'abord, juste quelques remarques préalables sur l'espérance. L'espérance, c'est un mot très important et qui est très important dans ce parcours, puisqu'en fait, les mots principaux de ce parcours, y compris le mot « je », y compris le mot « confiance », »,« courage », »,« fragilité », »,« confiance », etc., c'était les mots par lesquels j'avais essayé de résumer mon projet comment est-ce qu'on appelle ça ? Une confession de foi quand j'étais lycéen, quand j'avais 16 ans, et j'avais comme ça égrené 7 mots qui étaient un petit peu le projet qui était le mien. Donc l'espérance, ça se terminait par l'espérance. Et donc c'est la première fois que je remets le mot espérance à ce stade-là, si vous voulez. Alors, le mot espérance, je voulais d'abord le mettre en polarité. Vous voyez, j'aime bien faire des polarités, faire des tensions, construire des tensions. Je voulais mettre le principe espérance d'Ernst Bloch en tension avec le principe responsabilité de Hans Jonas. Alors, je vous explique un tout petit peu rapidement ce que ça veut dire. Hans Jonas a écrit un livre, Le principe responsabilité, dans lequel il montre que la responsabilité est moins désormais une responsabilité sur nos actes passés qui doivent nous être imputés que la responsabilité des conséquences de nos actions actuelles et de nos choix actuels sur le futur et sur les générations prochaines, ou même lointaines. Et donc, il faut agir de manière à faire en sorte que la vie après nous, le monde après nous, reste possible. Donc, voilà. Et ça veut donc bien dire que ce principe responsabilité lui-même, il s'énonce vers le futur, comme une sorte de, comme un rapport à la promesse. À vrai dire, Kant a des formules très très voisines, parce que un des postulats de la moralité chez Kant, c'était l'immortalité de l'âme dans la Critique de la raison pratique. Mais dans d'autres textes, il insiste beaucoup sur le fait que, le postulat de la moralité, c'est plutôt c'est le progrès de l'humanité, c'est le fait que les descendants, on peut faire le pari que les descendants feront mieux que nous, que les générations prochaines feront mieux que nous. Alors que Hans Bloch, qui est issu du marxisme, mais qui fait en quelque sorte, qui greffe une pensée marxiste sur une tradition d'une pensée plus utopique, on va dire, qui véhicule une conception, d'ailleurs, qui vient de Hegel, qui est une conception téléologique dans laquelle il y a des finalités, justement. Il y a une ouverture vers un... Lui, il écrit un très gros livre qui s'intitule « Le principe espérance ». En théologie, on a eu tout de suite un livre, pas tout de suite, après Hans Bloch, quand même un peu après, mais un livre de Jürgen Moltmann, intitulé « La théologie de l'espérance ». Et en fait, ça a correspondu à toute une génération, on va dire justement, il y a Moltmann, il y a Jacques Ellul d'ailleurs hein, aussi, qui sont des gens qui ont essayé de penser, de mettre l'accent sur l'espérance. Pas l'avenir comme futur, mais l'avenir comme ce qui va nous, en quelque sorte, nous... faire décoïncider l'avenir par rapport au futur tel qu'il se présente, tel qu'il s'annonce. Bon. Et en gros, avec l'idée que, c'est ça que je mettrais peut-être comme définition de l'espérance, faire en sorte que le monde ne soit pas fini. Et je voudrais tout de suite, à ce moment-là, indiquer quelque chose qui me vient de Ricoeur, c'est que l'espérance n'est pas l'espérance vers un au-delà, vers un ailleurs, c'est pas une évasion, il le dit d'ailleurs aussi beaucoup pour l'utopie, c'est vraiment... une limite, c'est une pensée de la limite, c'est très kantien. C'est une pensée de la limite, il y a quelque chose que moi je ne peux pas me donner, mais ça me retourne, c'est une conversion allant de ça. Ça me ramène à qu'est-ce qui m'est permis d'espérer, me ramène à alors maintenant ici, qu'est-ce que je peux faire. C'est pas donc c'est pas juste quelque chose dans lequel je bras croisés, quelque chose que j'attends du futur. Voilà, quelques remarques introductives sur l'espérance, je vais y revenir. Pour terminer ma leçon, alors je voudrais parler un tout petit peu dans ce cadre-là, dans cette perspective-là du pardon, en disant justement, faire que le monde ne soit pas fini. Ce qui est attendu, ce qui est prévu, ce qui va se passer, par exemple, ce qui est d'avance prévisible, c'est par exemple la loi de la loi des représailles, la loi de la vengeance. Le fait que le mal va répondre au mal, et que le mal va s'enchaîner sur le mal, etc. Et donc, le fait qu'on puisse répondre au mal, non pas par le mal, ce qui est prévisible, ce qui est prévu, mais par autre chose, qu'on puisse faire bifurquer, échapper à ce qui était attendu, ça c'est un signe de l'espérance, c'est une figure de l'espérance. Je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse ici, parce que je vais revenir sur ce thème avec Anna Arendt un petit peu. Je ne veux pas trop marcher sur les plates-bandes d'Imen, parce que je sais qu'elle va travailler avec cette idée-là. Mais je m'arrête un peu sur l'Orestie d'Eschyle, qui est un texte de la tragédie grecque. Et donc, s'enchaîne une suite de vengeances. Hein, Clytemnestre qui a tué Agamemnon, puis Oreste qui tue Clytemnestre, et puis donc les furies de la vengeance qui continuent à poursuivre Oreste, etc. Et il va y avoir une sorte de procès dans lequel Athéna va essayer d'arrêter la vengeance. Alors on peut dire que c'est normal, la cité s'impose à la famille comme Créon s'impose à Antigone en disant « Stop, c'est l'ordre de la cité, tu n'as pas le droit de te faire vengeance toi-même ». Ce n'est pas du tout ce qui se passe avec l'Athéna de l'Orestie d'Eschyle. L'Athéna de l'Orestie d'Eschyle, elle n'impose pas, elle ne prive pas la vengeance. Elle dit simplement, on a besoin de vous les furies là, on a besoin de vous, vous n'êtes pas vaincus, on a besoin de vous pour la cité. Il faut juste que vous deveniez les gardiennes de la paix, les gardiennes de la naissance. Vous qui êtes des puissances de la mort, vous êtes aussi les puissances de la naissance. On a besoin de vous. Et donc, quand Athéna dit, mais voilà, je ne vous ai pas vaincu, vous n'êtes pas vaincu, c'est un mot très important par rapport au pardon, je pense, ou par rapport à l'espérance dans un monde de furie, dans un monde de furie terrible, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que ça veut dire... ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va me pardonner à ma place, ou qui va juger à ma place, ou qui va prendre le jugement à ma place, ou à la place de la furie, ou à la place de celui qui va se venger. C'est exactement, vas-y, c'est à toi. On a besoin de tout le monde. Et ce commentaire-là, je le trouve chez Arendt, dans son commentaire sur le pardon, lorsqu'elle dit, alors voilà, le pardon, c'est ce qui répond à l'irréversible, à l'irréparable. Elle dit, si nous n'étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever, nous serions toujours victimes de ces conséquences. Pareil à l'apprenti sorcier qui, faute de formule magique, ne pouvait briser le charme. Mais elle dit, c'est ce pouvoir de délier, de se délier de l'acte irréparable, c'est Jésus de Nazareth qui a découvert ce rôle du pardon. Et elle dit, c'est pas une découverte religieuse, c'est une découverte, on pourrait dire, religieuse dans un sens. C'est pas dans une tradition religieuse qui découvre ça, c'est une invention proprement politique. Il dit, l'homme dans l'évangile, elle dit, l'homme dans l'évangile n'est pas censé pardonner parce que Dieu pardonne, il n'a pas à faire de même, mais... Elle cite « Si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur, alors Dieu vous traitera de même. » Et elle ajoute en note « Dans tous ces exemples, le pouvoir de pardonner est avant tout un pouvoir humain. Dieu nous remet nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. » Donc vous voyez, c'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas un pouvoir vertical, régalien, le droit de grâce, un droit de pardonner, bon, qui après est donné à des lieutenants qui vont représenter le pouvoir divin. Non, ce que dit Jésus, c'est que le pouvoir de pardonner appartient à tous et que personne ne peut pardonner à notre place, d'une certaine manière. Hein, c'est parce qu'ils sont toujours disposés à changer d'avis et à prendre un nouveau départ qu'on peut leur confier ce grand pouvoir qui est le leur de commencer du neuf, d'innover. Et Ricoeur commente la chose suivante. Pour pouvoir se lier par la promesse, le sujet de l'action devait aussi pouvoir se délier par le pardon. voyez, donc le pardon nous permet de nous délier de l'irréparable pour pouvoir nous lier librement par la promesse vers le futur. Donc j'insiste, vous voyez, la ressemblance entre ce que dit Arendt des paroles de Jésus et la tragédie grecque, ce que fait Athéna, c'est que Athéna ne confisque pas pour le pouvoir royal le droit de pardonner, le droit de faire grâce. Elle dit, mais non, mais ça vous appartient, c'est à vous, c'est vous qui pouvez. Moi, je ne peux rien faire sans vous. Nous ne pouvons rien faire sans vous. C'est ça qui est une invention, à mon avis, théologique, à vrai dire. Il se passe quelque chose théologiquement là. C'est une autre figure, une complètement autre figure du divin qui apparaît que le divin, on pourrait dire, terrible, du châtiment et de la justice. C'est un autre divin. Et c'est un divin, c'est pour ça qu'on appelle ça que l'Orestie d'Eschyle se termine par les Euménides, les Érinies, les Furies qui deviennent des bienveillantes. Donc voilà, il me semble que le pardon, tel qu'il apparaît là, par exemple, dans l'Orestie d'Eschyle, tel qu'il apparaît aussi à la fin de la tempête d'Hamlet, de Shakespeare, la tempête de comment c'est fatigué moi aussi, dans lesquelles Prospero, à la fin de la tempête, je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont lu La Tempête récemment ou qui s'en souviennent, il y a Prospero à la fin qui dit qu'il a tout manigancé, c'est un magicien terrible, il a pu faire venir dans cette île tout le monde, il les a manipulés, etc., pour les amener en quelque sorte à demander pardon. Et puis à un moment donné, il ne peut rien imposer, il dit « ici, j'arrête mes pouvoirs magiques, ici, mes pouvoirs magiques tombent ». Et si vous voulez, donc, c'est très intéressant, c'est que le pardon n'est pas une puissance magique irrésistible. Là, maintenant, c'est à vous. Alors, vous êtes réunis. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est la fin de la tempête de Shakespeare. Je vous la recommande parce que c'est vraiment une magnifique scène qui dit là encore un peu la même chose. Voilà. Donc cette idée de comment est-ce qu'on va sortir de ce monde sombre, de ce monde de furie dans lequel on est. Alors, je termine par quelques mots sur ce que j'appelais la sagesse et la folie. De cette sagesse. La sagesse, face au tragique, elle peut aussi revenir au comique, dire ben non, mais on ne se comprenait pas, on était chacun dans notre coin, dans notre connerie, dans notre malentendu. Tout ça, c'est du malentendu, on ne s'était pas compris, on ne parlait pas de la même chose. Et donc, voilà, on peut relativiser le différent en disant voilà. Et donc, pour pouvoir rentrer dans le comique, il faut se faire petit, il faut accepter de relativiser. Il y a une humilité. Donc, la sagesse pratique, elle prétend pas dire la justice. Elle dit juste, ben là, voilà le moindre mal. On va chercher le moindre mal. Ou on va approuver le moindre bien aussi. Il y a ce côté petit. On commence avec du petit. Un petit bien, ben, c'est mieux que rien du tout. Et un petit mal, c'est mieux qu'un grand mal. Si vous voulez. Bon, c'est comme ça. Donc, il faut le petit. Bon. Donc, on ne cherche plus à généraliser. On accepte même des compromis, si vous voulez. Bon. Ça serait une première direction de la sagesse pratique. Mais il y a une autre direction qui est plutôt celle de ce que j'appelais la folle sagesse, la folie qui est celle de l'amour, dans laquelle la sagesse est de ne plus chercher à comparer. On est dans l'incomparable, on est dans l'abnégation, on est dans une compassion. Récemment, il y avait une étudiante en master coréenne qui faisait un master sur le pardon, justement, elle terminait par le Christ en disant, ben voilà, le Christ, c'est cette figure de la compassion dans laquelle on sent, d'ailleurs on a des mêmes pages un peu voisines chez Dostoïevski, dans lesquelles le Christ nous fait sentir l'identité de tout le monde avec tout le monde. En Christ, il y a une sorte de compassion universelle et c'est cette figure-là. Je dirais, voilà, c'est un peu ça, cette figure de la, une sorte de sagesse folle, parce que justement, c'est fou parce qu'on est complètement en dehors de ses intérêts on s'oublie complètement, on est dans l'abnégation, on est dans l'effacement, on est dans l'insouci de soi. Et cette autre issue, je voulais, j'ai oublié pendant la pause, j'aurais dû préparer ma lecture, je voulais terminer par la lecture de pages de Kierkegaard dans Les oiseaux du ciel et les lys des champs, et il fait toute une page sur l'insouci. Cela n'est possible que si le soucieux prête une réelle attention aux lys et aux oiseaux, s'oublie en eux et dans leur vie. Dans ce détachement de lui-même, il apprendra de ses maîtres par lui-même et insensiblement quelque chose de lui-même. Insensiblement, car le silence règne sans partage, nul n'est présent, le soucieux n'a pas de témoin excepté Dieu. Alors...
Chers auditeurs et auditrices, vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus au 103.2. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en DAB+, et bien sûr aller sur notre site radioallianceplus.fr pour aller écouter tous nos podcasts, et pas seulement ceux dans nos communautés, mais beaucoup d'autres qui vont vous intéresser et vous enrichir pour cette nouvelle année. Eh bien, nous avons entendu de la musique de Jan Tiersen, de nouveau, et puis avant cela, je vous avais proposé d'écouter la leçon 19 de Olivier Abel, La folle sagesse de l'espérance. Et comme Olivier Abel avait cherché sur son ordinateur et dans son livre un texte approprié de Søren Kierkegaard, qui s'intitule, dont l'ouvrage s'intitule Les lys des champs et les oiseaux du ciel, et il n'avait pas pu trouver exactement le texte qu'il cherchait. Il nous en avait donné juste un tout petit bout. C'était un peu trop long à chercher. Le livre n'est pas si court que ça. Et donc, je voulais juste vous préciser que c'est en 1849 que Kierkegaard a publié cet ouvrage sous forme de 3 discours d'édification religieuse. Il s'adresse en fait aux affligés, les invitant à la contemplation des lys des champs et des oiseaux du ciel, divins maîtres selon l'évangile de Matthieu. L'affligé repousse en effet la pitié humaine qui le tourmente, l'humilie et le conduit en outre à faire des comparaisons, mais seul au milieu de la nature, il est délivré de l'anxiété de la comparaison, car les êtres de la nature, entièrement différents, ne peuvent susciter son envie. La vue du lys et de l'oiseau le détourne de sa peine et lui rend le calme, lui apprenant à se contenter de sa condition humaine. Les lys sont merveilleusement parfaits dans leur simplicité. Combien l'homme ne le serait-il pas davantage du fait qu'il est une créature humaine, chef-d'œuvre de la création ? Mais séduit par son propre esprit insatisfait et capricieux, qui finit par lui faire oublier sa qualité humaine, l'incitant à se plaindre des différences entre l'homme et l'homme, ainsi poussé vers d'inaccessibles chimères, il finit par sombrer dans le découragement. L'enseignement d'Ulysse, à qui le tourment de la comparaison et de la jalousie est inconnu, délivre l'esprit de l'homme des préoccupations mondaines. L'oiseau, qui vit au jour le jour, insoucieux du lendemain, le libère de cet ordre matériel, car qui le nourrit sinon Dieu ? Aussi l'homme apprend-il qu'il est également nourri par le Père Céleste. Cet ouvrage, admirable de simplicité et de force persuasive, vise à déterminer les catégories de personnes ou d'individus essentiels à la pensée religieuse, mais anti-ecclésiastique, idéaliste, mais anti-hegelienne de Kierkegaard. Pour lui, l'homme authentique, l'homme pur et simple, n'atteint son être propre qu'en se mesurant à l'éternel, hors des rapports trompeurs de la vie sociale. Voilà une belle façon de nous faire comprendre notre place et comment les lys des champs et les oiseaux du ciel peuvent nous apprendre le bonheur réservé à la condition humaine. Voilà ce qui fait partie de l'espérance et de ce que nous avait proposé Olivier Abel lors de cette leçon 19 dont je vous ai proposé d'écouter. Eh bien, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission. Portez-vous bien, passez un bon week-end et une bonne semaine. Au revoir.
Partagez vos événements sur agenda@radioalliance-plus.fr.